Michel Fouché, bonjour.
Bonjour.
Alors, même en Chine, la chute du mur de Berlin en 89, suivie de celle de l'Empire soviétique en 91, a eu des conséquences importantes.
Oh, ils en ont tiré de manière préventive immédiatement des leçons en s'empressant de renégocier, je parle de territoire hein, là, d'abord, leurs frontières avec les républiques d'Asie centrale devenues indépendantes, hein, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tadjikistan, ça a été assez rondement mené. Et par ailleurs, ils ont essayé de régler leurs affaires avec la Russie. Et le dernier accord a été signé au mois d'août 2008 à Pékin sur des îles de la vallée de l'Oussouri. Donc c'est assez intéressant parce que sur, au fond, l'enveloppe de l'ancienne Union soviétique avec la Chine, il n'y a plus du tout de contentieux frontaliers. Tout a été réglé. L'une des raisons, c'est que ce sont des zones en plein boom économique. Ce sont des régions où il fallait ouvrir assez rapidement et équiper des ports terrestres, des endroits pour faire passer des gazoducs, des oléoducs. Et puis, naturellement, il fallait renforcer le contrôle sur le Xinjiang, la région ouïghour, et s'assurer de la pleine coopération des autorités des pays voisins, notamment au Kazakhstan, où il y a une très forte minorité ouïghour assez active.
Alors, on sait que la Chine a construit une grande muraille. Comment a-t-elle historiquement pensé ses frontières ?
Bon, d'abord, il s'agit de deux grandes murailles au pluriel. Ce sont des édifices qui sont bâtis sur à peu près une quinzaine de siècles. C'est beaucoup plus long dans le temps que le limès. Alors là, la doxa veut que ça soit une limite entre les sédentaires et les barbares, en commençant par la région qui est au nord de Pékin. En réalité, la première fonction c'est pour ça que c'est différent du limès romain, la première fonction de ces murailles, c'est d'englober les paysanneries conquises. Et ensuite, et ça par contre c'est un point commun avec le limès, ça sert à, au fond, contrôler les points de passage. À partir du moment où vous avez une muraille, il y a des portes. Et le rôle de la muraille, c'est pas forcément d'empêcher les invasions extérieures, c'est de contrôler la circulation. C'est-à-dire vous décidez de l'endroit où ça passe. C'est la problématique générale des frontières stratégiques, de façon à avoir un commerce entre des peuples différents et à échanger. Mais la première fonction de la muraille chinoise, c'est vraiment d'englober les paysanneries et les espaces conquis.
Alors, est-ce que l'empire du milieu se définit par sa délimitation et surtout son isolement ? Et ensuite, je vous poserai la question du limès, parce que je ne suis pas sûr que tout le monde sache ce que c'est.
C'est une représentation du monde où il y a plus exactement l'empire sous le ciel, et puis autour des périphéries qui sont soit sinisées, hein, Corée, Japon, soit qui refusent la sinisation, c'est toute l'histoire du Vietnam, mais qui sont en situation tributaire. Hein, on est dans un système de centre et de périphérie tributaire, dans un système d'allégeance. Lorsque le président de la République française et le président chinois se serrent la main au G7 de Londres pour se réconcilier sur la question tibétaine, en obtenant du président français ce qu'il souhaite, c'est-à-dire le réengagement qui n'aura jamais de reconnaissance de l'indépendance du Tibet, la presse chinoise parle de l'allégeance française. On est dans cette logique-là qu'on retrouve dans beaucoup d'autres endroits. C'est assez monarchique, en fait, comme fonctionnement. Et puis au-delà, c'est le domaine des barbares et des diables étrangers. Et pendant longtemps, il y a eu cette représentation, même s'il y a des expéditions maritimes lointaines qui ont été complètement oubliées, puis remises à l'ordre du jour il y a quelques années pour justifier une stratégie maritime d'expansion chinoise. Alors, quand les jésuites, notamment Matteo Ricci, arrivent en Chine et se présentent à la cour impériale avec une carte du monde, les lettrés chinois qui sont là, l'empereur, sont très surpris de voir que les Chinois sont pas seuls au monde et qu'il y a des terres, des espaces au-delà du monde chinois et du monde sinisé. Et d'autre part, il découvre avec une grande surprise que la Chine n'est pas au centre du planisphère que Matteo Ricci lui présente. Et donc Matteo Ricci redessine une carte en chinois en plaçant cette fois-ci l'Empire sous le ciel au centre de la feuille de papier qui représente la carte. Donc il y a une vraie croyance de qui, à mon avis, reste complètement ancrée dans les mentalités chinoises aujourd'hui, qui est que le monde est organisé avec la Chine et puis les périphéries.
Et c'est toujours l'empire du milieu.
En tout cas, si on examine les faits les plus marquants des 20 dernières années, pour moi, il y en a deux. Il y a l'unification de l'Europe et la défaite des idéologies communistes. Et puis, d'autre part, il y a la montée en puissance de la Chine. Ce sont les deux faits majeurs, bien plus que tout le reste.
On revient juste au limès.
Le limès romain, donc limite, si l'on veut, c'est un terme d'arpenteur. Hein. C'était un dispositif fortifié, en général en bois, palissade la plupart du temps, et des tours de guet qui se situaient entre l'Angleterre et l'Écosse actuelle, entre le Rhin et le Danube, le limès d'Allemagne. Et puis ensuite, en Syrie historique, et en Afrique du Nord. Hein. Ce qu'on connaît encore, c'est le mur d'Adrien et le mur d'Antonin, qui s'appelle toujours d'ailleurs Border, au nord de l'Angleterre. Et c'était un dispositif qui permettait d'englober les terres conquises et d'entretenir des relations pas trop conflictuelles avec les Germains. Surtout d'ailleurs avec les Germains ou avec les tribus scots, enfin disons, mais surtout avec les Germains. À la fois pour contrôler, pour tenir l'espace conquis et pour maîtriser les lieux d'échange.
Alors, où sont aujourd'hui les points de litige frontaliers en Chine ?
Bon, si je laisse de côté Taïwan, parce que les Chinois me diront que c'est une affaire intérieure, Hong Kong, Macao, c'est réglé. Il y a des litiges avec le Japon et la Corée sur des affaires maritimes, un litige avec tous les pays riverains en mer de Chine méridionale. Bon, à partir du moment où ça s'appelle la mer de Chine méridionale, il y a déjà quelque chose, mais là on estime à Pékin que tous ces îlots, les Paracels, les Spratleys qui sont au large du Vietnam, des Philippines, de Brunei, de la Malaisie, tout ça, ça relève de la suzeraineté chinoise, et donc vous avez le moindre îlot maintenant est fortifié, tout le monde se surveille. Mais le fait le plus important, c'est l'absence de toute avancée entre l'Inde et la Chine. Il y a des contentieux très très importants, il y a eu une guerre très sévère en 1962. Il y a une politique de durcissement de la frontière du côté chinois, de verrouillage évidemment du Tibet, de militarisation de la frontière, quelles que soient les altitudes, et un refus indien d'ouvrir des routes. Il y a une crainte indienne. Enfin, les Chinois ont une politique, ils veulent regarder au-delà du plateau du Tibet, au-delà des chaînes de l'Himalaya, et ils poussent leurs pions au Bhoutan, dans le nord-est de l'Inde, en Arunachal Pradesh. Le seul point qui n'est pas litigieux, c'est le Sikkim, qui est maintenant indien. Et là, il y a une route qui a été ouverte au printemps 2008, au col de Nathula, qui est à 4600 mètres d'altitude. C'est le poste frontière le plus élevé du monde.
Alors, quelles sont les conséquences de ce différend entre l'Inde et la Chine ?
Moi, ma thèse, c'est ce que je défends dans mon livre qui sort maintenant, là, début mai, chez Odile Jacob, hein, L'Europe et l'avenir du monde, c'est que, d'abord, cette catégorie qu'on a inventée dans les banques d'investissement, de représentation du monde avec des nouveaux acteurs, dit BRIC, hein, Brésil, Russie, Chine. En réalité, c'est bien sûr, ces pays avaient jusqu'à l'année dernière des taux de croissance assez importants, mais entre l'Inde et la Chine, tout les sépare. Ils sont concurrents dans tous les domaines. Ils ont peu d'intérêts communs. Ce sont des rivaux. La Chine refuse que l'Inde entre au Conseil de sécurité. Elle fait la même chose avec le Japon, d'ailleurs. La Chine soutient les adversaires de l'Inde, en particulier le Pakistan. La Chine a une politique de présence maritime extrêmement active dans l'océan Indien, qui s'appelle Indien, mais qui n'est pas contrôlé par la marine indienne, etc., etc. Donc, je dirais que tous les séparent, et c'est structurel. Il n'y aura jamais d'entente, encore moins d'alliance entre l'Inde et la Chine. Et puis, il y a la question du Tibet, naturellement, puisque le gouvernement tibétain en exil se situe en Inde. Mais ça, c'est une carte que les Indiens gardent en main.
Est-ce que le problème des frontières va en Chine de pair avec celui des minorités ?
Oui, dans l'Ouest, bien entendu, pour le Xinjiang, c'est-à-dire la minorité ouïghour qui est active, proteste, comme au Tibet d'ailleurs, contre un mouvement généralisé de sinisation, c'est-à-dire de renversement de la situation démographique. Et donc il y a des émeutes, des protestations, des actions violentes tout à fait régulièrement, une militarisation croissante de ces territoires. Qui était regroupé dans ce qu'on appelait autrefois le Turkestan oriental. Au Tibet, c'est en train de devenir aussi une affaire de minorité, en réalité, avec une sinisation. 70% de la population de Lhasa est maintenant chinoise. Militarisation du territoire tibétain, exploitation des ressources. C'est un pays sous des régions très riches. Et la revendication centrale des dirigeants tibétains en exil ou de certains moines, c'est pas l'indépendance, c'est l'autonomie, c'est le fait de se gouverner soi-même, sauf dans les domaines militaires, politiques, étrangères, etc. C'est un certain contrôle des ressources qui sont encore une fois très, très nombreuses. Et puis c'est surtout la reconstitution du Tibet historique, puisque la moitié du Tibet se trouve maintenant intégrée dans d'autres provinces. Donc c'est tout à fait, c'est très précis, mais là aussi j'ai l'impression que la partie est jouée d'avance, parce que le rapport de force est tel, la masse démographique, et puis les Chinois ne peuvent pas se permettre de perdre le contrôle du château d'eau de l'Asie, etc., etc. Et puis alors au sud, c'est très intéressant, c'est moins connu, c'est dans le Yunnan en particulier, là on est uniquement dans des régions complètement de minorités. Et là, la politique est plus une politique d'ouverture en direction du Laos, de la Birmanie, avec beaucoup d'échanges frontaliers, beaucoup de commerce, je ne parle pas seulement de la drogue, hein, beaucoup de commerce, beaucoup d'échanges. Et il y a une poussée, au fond, il y a une espèce d'annexion rampante au plan économique, notamment d'un territoire comme le Laos, des ressources, des forêts, des mines, etc., plus tous les équipements hydroélectrique sur le Mékong. Donc c'est bon, il y a le Vietnam qui résiste, mais comme d'habitude, ça fait 1000 ans que le Vietnam résiste à la poussée chinoise.
Alors, il en restera encore peut-être 1000 ans. On a parlé tout à l'heure de la stabilisation de la frontière russo-chinoise. Est-ce que cette stabilisation a eu des retombées économiques positives pour les deux pays ?
Oui, je dirais que c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire que c'est le développement des interactions économiques qui a encouragé les autorités à Moscou à régler les questions frontalières, plus l'inquiétude des gouverneurs de Primorie, enfin Primorie c'est l'extrême-orient russe, Le déséquilibre démographique est là. Hein. Il y a 12-15 millions d'habitants du côté russe. Il y a 80 millions d'habitants dans l'ancienne Mandchourie. Les Chinois sont très actifs. Vous avez des villes jumelles qui... Mais le boom immobilier et commercial se fait du côté chinois. Beaucoup de Chinois s'installent de l'autre côté comme touristes pour faire du commerce, pour cultiver. Donc, curieusement, bien que le niveau de vie soit plus élevé en Russie, les activités, le dynamisme se trouvent du côté chinois. Il y a tout un débat pour savoir quelle est la population chinoise installée en Extrême-Orient russe. Les démographes russes parlent de 700 000, 800 000, ça peut aller jusqu'à 3 millions, mais il y a beaucoup de mouvements, si vous voulez. Il y a eu des phénomènes d'ouverture, il y a une dizaine de postes frontaliers actifs et... des villes jumelles qui fonctionnent, c'est du commerce essentiellement, et puis les Chinois viennent jouer au casino de l'autre côté, du côté russe. Enfin, c'est un phénomène de stratégie frontalière assez classique.
Est-ce que les Russes ont peur de l'immigration chinoise ?
Les gouverneurs, bon, dans le fantasme général, oui, bien sûr, mais les gouverneurs aussi, les gouverneurs des régions de l'Est, et c'est ce qui a amené les Russes à régler très très vite ces questions de frontières. La Chine ne parle plus des traités inégaux, mais les circonstances pourraient changer. Je crois qu'il ne faut pas exagérer ce phénomène à court et moyen terme. Mais je pense que c'est pas complètement oublié. Je crois que dans le nord du Yongyang, enfin à Harbin, l'ancienne Mandchourie, il y a un musée où on représente les territoires perdus. Enfin, ces territoires n'ont jamais été vraiment sous le contrôle des Mandchous, c'était des zones forestières. Mais enfin, c'est très important parce que ça porte sur tout ce qui se trouve entre la Corée du Nord actuelle, la vallée de l'Amour. Donc c'est vraiment des territoires qui sont tout à fait importants. C'est pas une question centrale actuellement.
Alors justement, à propos de Corée, est-ce que les Chinois ont vraiment construit une barrière anti-migrants entre la Corée et eux ?
Oui, non seulement ils ont verrouillé leur dispositif, même si on passe, hein, comme toujours, mais ils renvoient les gens chez eux. Mais il y a aussi une minorité coréenne de l'autre côté, donc il y a quand même des petits trafics, on contrôle jamais tout, mais il y a vraiment un dispositif quasiment de fermeture pour éviter une immigration massive.
Ils ont fait un mur, comme les États-Unis avec le Mexique ?
Non, c'est pas des murs. D'abord, entre les États-Unis et le Mexique, il n'y a pas vraiment de mur. Il y a des petites sections un peu durcies. Mais c'est pas... C'est, ça représente pas grand-chose. En pourcentage de la limite totale, là, c'est vraiment... Il y a des gardes-frontières, il y a l'armée, et c'est durci. Vous voulez, c'est du barbelé, c'est des barrières métalliques. Enfin, il y a aussi du passage.
Alors, est-ce que les choses vont changer avec la zone de libre-échange prévue en 2010-2015 entre la Chine et les pays de l'ASEAN ?
Les pays de l'ASEAN, à l'exception peut-être de Singapour, sont déjà intégrés dans une espèce de zone économique de facto, alimentant les industries chinoises, mais le Japon fait pareil, en produits qui sont ensuite réexportés par les entreprises chinoises aux États-Unis. Hein, c'est-à-dire que c'est un commerce, et c'est pour ça qu'actuellement les pays de l'ASEAN sont très affectés par la crise économique et financière américaine, par le biais de... leurs partenaires économiques chinois. C'est un système un peu triangulaire, si vous voulez. Donc, en même temps, c'est une zone de concurrence, puisque les Coréens y sont actifs, mais surtout les Japonais. Donc, c'est une zone de concurrence entre Japon et la Chine pour, au fond, avoir des industries de sous-traitance. Mais il y a une telle interdépendance entre Chine, Japon, d'une part, et ASEAN, de l'autre, que c'est assez difficile de voir une perspective, comme on le dit parfois en Europe, de constitution, une sorte d'unité sud-est asiatique, un grand marché commun, on parle de monnaie, etc. Mais on ne peut pas faire ça en excluant et la Chine et le Japon, et le yuan et le yen. Donc... Cette ASEAN a été construite politiquement contre le Vietnam. Vietnam, maintenant, en fait partie. Alors, il y a des grands travaux. Passons des aménagements qui profitent d'abord à la Chine. Il y a des financements avec la Banque asiatique de développement qui est basée à Manille. Il y a un secrétariat extrêmement restreint qui se trouve à Jakarta. Et puis là, la dernière réunion, on n'a pas pu se tenir parce que des manifestants ont empêché le gouvernement thaïlandais d'ouvrir la réunion. Donc, je crois qu'on ne peut pas... Il y a une intégration régionale, mais les facteurs externes sont très importants. C'est une zone d'approvisionnement, en quelque sorte, de la Chine et du Japon.
Et ça, on ne sait pas comment ça va évoluer.
Ça dépend de l'économie mondiale, ça dépend du prix du gaz et du pétrole pour l'Indonésie, du prix des matières premières pour le Vietnam ou la Thaïlande, et ça dépend du marché américain et de ses fournisseurs chinois. Donc il y a une forte dépendance, si vous voulez. C'est un peu différent de la situation européenne où l'assise de la force économique de l'Union européenne, c'est son marché intérieur. D'abord, ce n'est pas l'accès au marché mondial, ça vient ensuite. Même s'il y a des différences, alors que là, c'est un système où on fournit la Chine ou le Japon pour réexporter en Europe et aux États-Unis. Donc, ce n'est pas tout à fait le même mécanisme.
Alors, la Chine intervient même en Afrique, et notamment au Soudan, où elle a financé l'aménagement de la frontière entre le Soudan et l'Éthiopie. Alors, c'est quand même une curieuse façon de faire, d'aller se mêler des frontières d'un autre continent.
Oui, mais ils suivent de très près, l'agence Xinhua suit de très très près toutes les affaires frontalières en Afrique. Le dernier article que j'ai vu concernait la Guinée équatoriale et je crois le Gabon ou le Cameroun. Ils ont financé une petite section. Ce sont des hommes d'ordre, ils sont conservateurs, ils ont fait des investissements importants dans le pétrole au Sud-Soudan, ils ne veulent pas d'incident. Ils suivent de très près tout ce qui se passe en fonction avec une préoccupation de sauvegarde de leurs intérêts, tout simplement.
Et le Soudan ne considère pas que c'est une ingérence dans sa politique intérieure ?
Non, parce que ça a été fait de manière concertée. Hein. C'est un soutien. Il y avait un différend ancien, un contentieux porté sur quelques villages entre l'Éthiopie et le Soudan. Et comme il y a d'autres problèmes en Érythrée, Djibouti, Éthiopie, les Chinois ont ajouté des crédits, c'est des dons d'ailleurs en l'occurrence, d'équipement, mais ils voient ça de manière un peu technique. Mais ils ont des intérêts tout à fait importants au sud du Soudan, oui. D'ailleurs, on va voir ce qui va se passer si le référendum d'indépendance de 2011 obtient un résultat positif dans le sud du Soudan. Ce pays sera coupé en deux. Et ça changera un peu les choses. Donc ils sont très très attentifs à ça. C'est-à-dire que, à mon avis, ils sont déjà en train de chercher une autre voie de sortie que le Soudan actuel pour leur pétrole.
Alors un dernier mot sur Taïwan, même si c'était une affaire intérieure.
Quand je dis affaire intérieure du point de vue de Pékin, hein, c'est... Taïwan, c'est une querelle entre deux forces politiques à l'origine, hein, entre les communistes qui ont gagné et le Kuomintang. Bon, entre parenthèses, le Kuomintang aurait eu la même politique au Tibet que celle de Mao Tse-tung. Hein, il faut pas se tromper sur tout ça. Là, la situation est plutôt calme. Il y a énormément d'investissements taïwanais maintenant... en Chine, et notamment dans les provinces qui sont en face, notamment dans le Fujian, la voie, les partis indépendantistes ont perdu les dernières élections, donc les choses vont mieux, mais il est certain que le schéma Hong Kong, un pays de système, est l'objectif final de Pékin. La différence, c'est que les Britanniques à Hong Kong étaient pragmatiques, ont négocié une transition avec des garanties politiques. Là, la protection de Taïwan est assurée par les États-Unis. Donc c'est un petit peu plus compliqué, parce que les États-Unis, c'est pas une province américaine, mais c'est un peu tout comme. Donc c'est une partie beaucoup plus compliquée. Et puis il y a le Japon, ça a été une colonie japonaise. Donc, la modernisation de Taïwan vient de la période japonaise, comme la Corée d'ailleurs. Et donc, en ce moment, on n'en parle pas, c'est pas un point chaud, et l'interdépendance se développe.
Et vous voyez l'avenir de Taïwan comment ?
Scénario de type Hong Kong, à long terme.
Oui, peut-être à très long terme.
À très long terme, sauf s'il y a un pouvoir politique à Taïwan qui brusquement déclare l'indépendance, à ce moment-là, il y aurait un conflit américano-chinois.
Michel Fouché, merci.